le corps et l'âme. Nous nous distinguons par nos corps et nos âmes. Le désir nous pousse à unir nos corps, à nous accoupler à un autre corps que nous trouvons beau, attirant, séduisant, mignon, doux. Le désir nous fait aimer le corps, le nôtre et celui de l'autre. Le désir développe notre corps lors de notre croissance. Le désir nous donne jouissance et si nous le comprenons intelligemment, nous développons notre beauté et notre grâce. Le désir est à l'origine même de la vie, crée, procrée, construit, transforme. Le désir nous anime et nous rassure la pulsation de l'élan vital, essentiel pour la santé psychique et physique et la longévité. Mais il y a aussi le désir de s'unir à l'âme de l'autre. C'est ce qu'on appelle l'amour. Est-ce un autre désir que celui qui désire le corps? Ou bien n'est-ce peut-être pas un désir du tout? Est-ce que l'amour est-il en dehors de tout désir? Est-ce que le désir du corps, ce que nous appelons désir sexuel, est-il lié au corps? Est-ce que c'est donc un désir du corps? Et l'amour, est-il un désir de l'âme? L'amour existe-t-il donc indépendamment du corps? Si vous désirez un autre corps, est-ce votre corps qui le désire? Peut-on désirer un corps, tout simplement un corps? Si le désir sexuel nous pousse à faire l'amour avec telle ou telle personne, est-ce possible que nous ne désirions que le corps de cette personne? Mais comment est-ce possible, vu qu'il n'y a pas de corps vivant qui n'est pas animé d'un élan vital et doté d'une âme incarnée? Seuls ceux qui désirent des cadavres ne désirent qu'un corps pour leur plaisir, et cela est une perversion très rare. On peut alors dire qu'en général, si l'on est attiré par une personne, il n'est logiquement pas possible que d'être attiré que par le corps de cette personne et non pas par son âme. Car l'âme s'exprime à travers le corps, forme le corps, lui donne sa vie, sa beauté, son flair érotique, son charme, son aura. Un corps, en tant que corps, peut-il désirer? Si l'on adhère au concept dualiste qui postule la distinction entre corps et âme, concept platonicien et plus tard chrétien, le corps et l'âme peuvent exister à deux niveaux, pour ainsi dire. Mais un corps sans âme est mort. Un corps sans âme est un cadavre, car la mort se définit par le fait que l'âme a quitté le corps et survit dans un corps fluide, subtil ou astral, peu importe l'expression. Le corps en tant que tel ne peut donc rien désirer. C'est toujours l'âme, ou comme disent les psychologues, le psychisme qui désire. Le désir se situe donc dans la psyché et c'est de là seulement qu'il est transmis dans le corps, où il devient visible par des réactions physiologiques. Et l'amour, nous l'avons vu, est également lié à l'âme. Désir sexuel et l'amour, comment donc peuvent-ils être séparés, comme le prétend ce concept dualiste? Comment peut-il y avoir séparation lors de l'union? Est-ce que le corps désire un autre corps puisqu'il ne se contente pas de lui-même? Il existe un mythe antique exposé dans le Banquet de Platon qui explique que le désir provient du fait que dans les temps archaïques, nous y avions été androgynes et bisexués, plus complets donc, dans le sens que nous aurions eu les deux sexes unis en nous-mêmes. Mais le désir est-il toujours le désir pour l'autre sexe? Le désir homosexuel n'est-il pas désir? La psychanalyse a révélé que nous sommes tous et toutes psychiquement bisexuels. La Kabbale, le tantrisme, le taoïsme et d'autres religions anciennes le savaient depuis longtemps. Dans le tarot, sur l'arcane du monde se trouve la fin du voyage du fou, l'androgyne, l'être supérieur car intégré. L'archétype de la complémentarité, de l'être complet, ne peut être conçu que de façon hermaphroditique. De même, les termes de Nalyorpa en tibétain et de yogi en sanskrit ont entre autres la signification de celui qui est l'accomplissement de l'union des principes mâles et femelles. Mais cet archétype n'est pas à la base du désir. Il représente plutôt la sublimation du désir, le contentement en soi. Il est à la fois le départ, l'enfance et la fin, la vieillesse du voyage de la vie. Le désir n'est donc pas forcément la recherche de l'autre sexe. Le désir se porte toujours sur un individu, une personne autre que celui qui désire, et il se porte, nous l'avons vu, sur le corps et l'âme de cet individu. Peu importe comment nous expliquons l'existence du désir, par ce mythe ancien ou autrement. Ou bien pouvons-nous rester avec la question sans chercher une réponse? Il est évident que sans désir, il n'y a pas de vie. Le désir appartient donc à la vie. Cette simple observation ne peut-elle pas suffire comme réponse? Toutes les morales, soient-elles religieuses ou idéologiques, se sont appropriées le droit de réglementer le désir, le choix de l'objet désiré, les modes de satisfaction du désir. Elles sont allées jusqu'au point de castrer le désir par la création artificielle d'un mode de vie appelé chasteté, soit de le permettre partiellement tout en le condamnant, soit de le mutiler, soit de le sacrifier. On se demande à juste titre de quel droit ces morales agissent. D'un droit naturel? Mais quelle nature donnerait un droit à une autorité qui la trahit à tel point? Ces morales ont établi des lois, d'abord ecclésiastiques, plus tard étatiques, qui réglementent les désirs selon les critères du sexe et de l'âge des partenaires et selon les moyens de le satisfaire. La morale donne des réponses. La vie pose des questions. L'une de ces questions est: comment l'amour et le désir peuvent-ils arriver d'être séparés, comme ils le sont de fait aujourd'hui? La morale, qu'a-t-elle fait? A-t-elle tué l'amour? N'entrave-t-elle pas l'amour? L'amour disséqué survit-elle? L'amour morcelé en amour de parents, amour de soi, amour sexuel, amour du prochain, reste-t-il amour? Ou bien devient-il un concept mental ou moral qui porte une étiquette, l'amour tel et tel? L'amour devenu respectable, reste-t-il amour? Ou bien devient-il plutôt quelque notion hypocrite qui n'a pas mérité de porter le nom amour? Les images du désir n'ont-elles pas toujours été des archétypes? Dans toutes les vieilles religions, telles que le tantrisme indien, le taoïsme chinois, et la Kabbale juive, la sexualité, l'union de l'homme avec sa jeune épouse, ont été reconnues comme essentielles pour un rattachement au divin, au flux vital, au mystère et à la signification profonde de la vie. Peut-on aller même plus loin, au début du troisième millénaire, et valoriser le désir sans aucun concept moral? Peut-on ainsi reconnaître la vie dans toutes ses formes et ses caprices? Ne serait-ce pas faire valoir l'homme et son destin, vu le fait que l'homme se distingue de l'animal justement par le fait qu'il naît sans aucun instinct, veut dire conditionnement sexuel, et qui, pour cette raison, s'adapte, se plie, telle une fleur de lotus au vent, au courant de son existence, non pas pour simplement survivre, mais pour tirer le maximum de bonheur de sa vie, le maximum d'épanouissement, de félicité et d'amour. Pourquoi cette sagesse s'est-elle perdue au cours du processus historique que nous appelons la civilisation? Pourquoi la morale vise-t-elle à détruire la vie, le plaisir, la jouissance, le bonheur? Pourquoi le malheur de la crucifixion personnelle par une culpabilité collective, voulant que l'individu soit subjugué sous des doctrines pseudo-religieuses qui renient la vie et enfantent la violence, ou sous le soi-disant progrès, ou encore sous l'aune où l'une ou l'autre idéologie, soit-elle capitaliste, militariste, socialiste, fasciste, communiste ou autre? Pourquoi crucifier, culpabiliser, avoir honte de la vie et des fonctions naturelles? Pourquoi condamner, réglementer, disséquer le désir, l'amour? D'où vient cette farouche arrogance qui prétend savoir quel genre de désir est naturel et quelle sorte de désir n'est dénaturé? D'où vient cette haine contre la vie, le bonheur, le plaisir? Pourquoi l'efficacité, le devoir et l'utilité sont-ils devenus plus importants que l'amour? Pourquoi avons-nous laissé la morale tuer l'amour, le désir, la vie? Pourquoi ces cultures hautement industrialisées et soi-disant civilisées exhalent-elles une telle odeur de cadavre? Pourquoi leur flux de vie est-il complètement bloqué? Pourquoi tant de glace et de misère dans les relations humaines, tant de suspicion et de persécution? La peste émotionnelle, comme disait Reich. Eh bien, cela, il semble, c'est l'agonie devant une transformation complète des valeurs, et surtout des fausses valeurs et des pseudo-valeurs qui nous ont apporté rien de valable. Les signes de cette transformation socioculturelle globale sont bien visibles. Mais notre regard devrait plutôt se projeter à l'intérieur de notre monde individuel, au lieu d'être prosterné devant les cataclysmes inévitables à l'extérieur. Là où l'on peut agir à l'intérieur de nous-mêmes, dans l'âme, là, il y a assez à faire.